disons, placé thématiquement sous le signe de l'action, aborder la question du rapport du son et de la performance à partir du problème de l'instrument. Alors, il faut dire que classiquement, l'instrument ne semble un problème fondamental que pour l'artisan, le luthier par exemple. C'est un problème artisanal plus qu'artistique, l'instrument. Et ce problème artisanal consiste à trouver les moyens d'offrir à l'artiste le moyen le plus transparent pour sa création. L'outil qui résiste le moins au processus créatif, qui crée le moins d'obstacles possible. Son problème essentiel à l'artisan consiste à faire disparaître par l'excellence de sa production le moyen nécessaire à la création. Le faire disparaître, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un problème. Si l'on écoute un virtuose interpréter une fugue de Bach, par exemple, il faut un esprit pervers. Il faut véritablement un esprit pervers pour penser au petit marteau qui frappe les cordes successivement. Pour se représenter la mécanique mise en œuvre, la matière ébranlée, les doigts violentés, les vibrations dans l'air qui atteignent les tympans, etc. Il faut un esprit pervers, en effet, c'est-à-dire au sens propre, qui détourne des bonnes fins, qui retourne les moyens contre les fins, qui pénètre la logique intime d'un système, système psychique et affectif, mais aussi bien système moral, pour la faire jouer, cette logique intime du système, pour la faire jouer au détriment d'elle-même. Mais on pourrait parler aussi de système technique et bien sûr de système esthétique. Et c'est une expérience à mener d'ailleurs, écouter Chopin et penser aux marteaux, se concentrer sur les marteaux du piano en écoutant Chopin. C'est un petit exercice pardon, qui rend possible, concevable, un aspect central de l'art sonore moderne, à savoir la perversion de l'instrument, ce que j'appelle ici la perversion de l'instrument. C'est par elle que nombre de ruptures avant-gardistes ont eu lieu dans la création sonore. C'est par l'exploration perverse de l'instrumentalité musicale que de nombreuses potentialités créatrices ont été libérées. Lorsqu'on songe à la modernité artistique, on est tenté d'honorer les avant-gardes pour l'audace de leur percée à travers les lignes ennemies du conservatisme et de la tradition. Des percées, des traversées dont on ne peut que constater portée subversive. Mais je voudrais dire que, à travers cette question de l'instrument, ce qui se présente à nous, c'est ce fait qu'aucune subversion héroïque ne serait possible sans ce que l'on pourrait appeler la perversion artisanale de certaines pratiques. Et ici, il faut comprendre par artisanal le principe poétique d'une attention fondamentale aux outils, aux moyens, aux instruments, à la techné, telle que les Grecs l'entendaient. Un peu comme chez Platon, qui pensait que le menuisier était plus proche de la vérité que le peintre. À cette différence près, bien sûr, que la perversion artisanale ou instrumentale dont nous parlerons ici ne paraît pas très platonique, en ce sens qu'elle désublime tout et ramène si souvent le sexe à sa mécanique fétichiste. Cette perversion dont je voudrais parler est le propre d'une grande partie de l'art non-art, ou de l'anti-art, c'est-à-dire d'un art qui se nie pour mieux affirmer son essence transformatrice, et ce processus lui-même est pervers en soi. On la voit à l'œuvre chez Dada, bien sûr, chez Duchamp, mais aussi chez Fluxus et Nam June Paik, sur qui je voudrais insister aujourd'hui, parce que chez Fluxus et chez Nam June Paik, la question du son et de la performance du son, comme dépassement de l'art musical et dépassement de l'art en général, se présente comme un enjeu fondateur. Alors, on pourra objecter d'emblée que cette logique avant-gardiste ne concerne qu'une partie de la modernité artistique et de la logique avant-gardiste, et c'est vrai, c'est tout à fait juste, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans tous les cas, un rapport au son se présente. Dans tous les cas, ce rapport au son peut apparaître comme structurant. Car pour de nombreuses démarches au sein des arts plastiques au XXe siècle, la musique se présente à divers titres comme un modèle pratique de création. Et pour schématiser, on pourrait distinguer deux raisons de cette référence à la musique. Premièrement, parce que la musique possède une dimension immatérielle et que son langage est affranchi de la relation mimétique au monde tout en étant dans le temps. Et ce rapport-là se retrouve notamment dans l'art abstrait, et je pense que ça a été développé probablement lors des journées précédentes. Et l'autre modèle pratique de création lié à la pratique d'un art sonore est lié à un autre aspect, disons, de la musique, c'est le fait que la musique est exécutée, elle est jouée, parce que le son vibre et par là même est dans la vie, dans l'ici et maintenant de l'exécution. Et alors ce rapport-là est beaucoup plus observable du côté des artistes de la performance et des divers mouvements dits anti-art. Alors considéré sous l'angle de la performance, l'exécution et le jeu ne mettent pas seulement l'accent sur la dimension temporelle de l'événement du geste créateur. l'exécution met en œuvre également une nouvelle logique de l'instrument. J'ai présenté rapidement à propos de la perversion instrumentale. Une nouvelle logique de l'instrument dont le son mesure l'usage plutôt que d'être visé par lui. Le son perd la raison, pourrait-on dire, car l'instrument, entre moyen, médium et sculpture, semble libéré d'une certaine fonction instrumentale pour devenir, en quelque sorte, sa propre musique. Et c'est cette folie, si l'on veut, cette folie, ce jeu perversif, pourrait-on dire, dont je voudrais parler. Bien sûr, là, je ne ferai qu'évoquer certaines œuvres, nommer quelques artistes, et je m'excuse par avance pour le côté un peu surf, sinon nécessairement un peu superficiel, auquel je vais me livrer. Alors d'abord, deux mots sur ce premier modèle pratique de création qui a inspiré, enfin en tout cas qu'on voit à l'œuvre du côté des arts visuels entendus comme structurés à travers la pratique picturale et notamment dans le mouvement vers l'abstraction. Je ne vais pas développer la question de la correspondance des arts, de la comparaison des arts, je crois que ça a été évoqué précédemment. Mais disons simplement qu'on sait comment la doctrine de l'ut pictura poesis, la peinture comme la poésie, a servi à la peinture pour gagner sa dignité d'art libéral par opposition aux arts serviles de l'artisan. La peinture, donc poésie muette, avec ce privilège historique accordé au genre de la peinture d'histoire en raison de sa charge narrative, sa capacité à, comme la littérature, raconter des histoires, relater des mythes, et donc nous mettre en présence d'un contenu culturel des plus nobles. Rappelons simplement comment le rapport à la musique a accompagné l'autonomisation de la peinture, du point de vue de ce rapport à la représentation. Comment, en se rapprochant de la musique, du modèle musical, la peinture a pu mettre l'accent sur les propriétés plastiques et moins sur le contenu représentationnel. Songeons simplement à Delacroix qui, s'éloignant de son tableau, remarquait la musique du tableau résultant de tels arrangements de couleurs, de lumière, d'ombre, etc. Je ne vais pas entrer dans cette historique avec ses nombreuses ramifications, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir le passage de l'ut pictura poesis, qui, permet à la peinture de gagner sa dignité d'art libéral par opposition à l'artisanat, qui petit à petit se rapproche, à partir du moment où la peinture cherche à s'autonomiser, se rapproche d'une sorte d'ut pictura musica. Je ne sais pas si la formule a été citée pendant ces journées jusqu'alors, mais l'ut pictura musica, qui est un terme de Louis Viardot qu'on lit dans la Gazette des Beaux-Arts en 1859. L'ut pictura musica, c'est-à-dire la peinture comme la musique, la peinture comme la musique. Et cette peinture comme la musique, c'est un rapport qui s'établit au moment où la peinture s'autonomise, au moment où le langage de la peinture s'autonomise pour aller vers une plus grande abstraction. Bon, je passe certains points, et notamment ce moment célèbre dans la pratique de Kandinsky, qui était encore attaché à une espèce de figuration expressionniste, qui un jour, rentrant dans son atelier, découvre un tableau qui le frappe particulièrement. Il ne le reconnaît pas, il est particulièrement séduit par la force de ce tableau mystérieux, et il se rend compte en s'approchant que c'était son propre tableau, mais renversé sur un côté. Et donc ce renversement rendant, disons, illisible le contenu représentatif du tableau. Bien, disons que la référence musicale ici apparaît. Alors évidemment, là je ne développe pas sur le rapport de Kandinsky à la peinture et sa volonté de faire en sorte que le langage pictural acquiert, au même titre que la peinture, son autonomie par rapport à la relation mimétique à la nature. Bien. Simplement, ce qui m'intéresse ici, c'est que dans ce mouvement-là, et dans ce type de rapport à la musique dans les arts plastiques, ce type de rapport au son dans la peinture, se heurte à un problème que Kandinsky, notamment, cherche à résoudre avec sa théorie de la synthèse scénique abstraite. Et ce problème qu'il cherche à résoudre à travers la tentative de, après une phase analytique où les arts doivent approfondir leur spécificité, où chaque médium doit se tourner vers lui-même pour rompre avec les conventions de leurs usages respectifs et développer leur pureté et leur spécificité. Disons qu'il y a, après ce temps d'analyse, il y a un temps de synthèse qui peut s'opérer sur scène. Et on pense ici notamment à la sonorité jaune, ces créations de Kandinsky pour la scène, qui mettent en œuvre une sorte de synthèse des arts. Mais cette synthèse des arts, elle a un but notamment, c'est la question du rapport à la vie. Parce qu'on observe que chez Kandinsky, il y a une volonté de conjuguer ce qu'il appelle l'abstraction totale et le réalisme à l'état pur. Et il dit à Schoenberg en 1911, la chaise vit, la ligne vit, cela revient en fin de compte au même. Et je crois que ce problème du rapport à la vie, c'est la limite ici que touche Kandinsky. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le en fin de compte de ce rapport à la vie. La chaise vit, la ligne vit, cela revient en fin de compte au même. Et alors, de ce point de vue, cette question du rapport à la vie, on peut articuler ma problématique ici de l'instrument. En songeant qu'il y aurait comme ça deux grandes voies de la modernité, et je pense ici notamment aux théories de Peter Burger qui distinguent le modernisme, alors cette voie liée à la pureté formaliste, à l'abstraction et la spécificité du médium, etc., les théories de Greenberg, bref, ce que vous connaissez sans doute. Et puis de l'autre côté, bon, l'avant-garde, ce qu'on appelle l'avant-gardisme, c'est-à-dire non plus la pureté des arts, mais au contraire leur mélange, la fusion des arts, le rapport de l'art à la vie, etc. Et donc ces deux grandes voies, finalement, elles se rejoindraient, contrairement à certaines théories, au niveau de l'enjeu qui consiste à produire une forme d'art vivante. Et à cet égard, et je dis toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, il y aurait, entre l'abstraction de Modrian et Dada, par exemple, simplement une différence de méthode. Une différence de méthode pour atteindre un art authentiquement vivant. La différence, c'est ce « en fin de compte » dont parle Kandinsky, en ce sens que ce qui est « en fin de compte » pour l'abstraction serait en fait un réquisite, un point de départ pour Dada et ses héritiers. Et cela donc introduit cet autre modèle pratique de la création, non pas, enfin, en lien avec le son, la pratique sonore, l'art sonore, le modèle musical éventuellement, et bien entendu les ruptures des frontières de l'art musical. Cet autre modèle de création qui est l'exécution, on pourrait dire la performance. Donc d'un côté le modèle de l'abstraction, de l'autre le modèle de l'exécution, et donc exécution qui devient, disons, le modèle de la performance. Donc non plus l'abstraction, mais l'exécution. Et dans cette perspective, l'ouverture, évidemment, d'un rapport concret et direct à la vie. Alors bien sûr, l'art scénique en général propose un modèle, à condition de sortir des logiques de représentation qui l'encadrent. Mais le propre des arts sonores, ce qui nous intéresse ici, c'est de recourir à un matériau qui noue la vie à la technique et au corps. Et le premier exemple que je voudrais donner de ce nœud, disons, de ce rapport au son comme ouverture, disons, comme matériau d'une exécution d'un art ouvert vers la vie, comme moyen de faire entrer, disons, l'art dans la vie, de créer ce nouveau rapport, c'est... mais là encore, je crois que je vais aller assez rapidement sur cet exemple, parce que je crois avoir compris qu'il en a été question ici. C'est bien sûr Luigi Russolo et son art des bruits en 1913. L'enjeu du son, et en particulier du son-bruit, c'est la vie, explique Russolo, dans son manifeste de 1913. Chaque manifestation de notre vie, dit-il, est accompagnée par le bruit nous est familier, le bruit a le pouvoir de nous rappeler à la vie. Et il dit plus loin, nous rappeler brutalement à la vie. Le son, au contraire, étranger à la vie, toujours musical, chose à part, élément occasionnel, est devenu pour notre oreille, ce qu'un visage trop connu est pour notre œil. Le bruit jaillissant, confus et irrégulier, hors de la confusion irrégulière de la vie, ne se révèle jamais entièrement à nous et nous réserve d'innombrables surprises. Nous sommes sûrs qu'en choisissant et coordonnant tous les bruits, nous enrichirons les hommes d'une volupté insoupçonnée. Là, il ne s'agit pas cependant d'une simple mimésis, mais de créer un nouvel art de la combinaison des bruits et de la production des bruits. Alors, nous en venons au problème de l'instrument par ce fait assez évident que dans ce rapport de l'art à la vie, Russolo se confronte à la limitation des instruments. La limitation des instruments. Et il regrette que l'on puisse réduire, dit-il, les orchestres les plus compliqués à 4 ou 5 catégories d'instruments différents quant au timbre et au son, instruments à cordes frottées, à cordes pincées, à vent, métal, percussion, etc. Or, dit-il, il faut rompre à tout prix ce cercle restreint de sons purs et conquérir la variété infinie des sons bruits. D'où l'invention, célèbres inventions de nouveaux instruments, les instruments bruiteurs. Et alors là, c'est la perversion des futuristes. C'est la perversion des futuristes, Rousseau l'a en tête, qui, avec son art des bruits, conçoit des instruments bruiteurs, autrement dit des instruments destinés à produire ce que la musique interdit. D'ailleurs, les parasites, le bruit comme parasite du son musical. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez à quoi ressemblent les instruments de Rousseau-Lo. 15 bruiteurs pour, par exemple, Rousseau-Lo décrit ainsi les instruments nécessaires pour un concert bruitiste donné à Modène. 15 bruiteurs, 3 bourdonneurs, 2 éclateurs, 1 tonneur, 3 siffleurs, 2 bruisseurs, 1 glouglouteur, 1 fracasseur, 1 stridenteur, 1 renacleur. C'est cela, donc, c'est ce que j'appelle la perversion des futuristes, cette manière de faire entrer le bruit dans la musique et de produire des instruments. Donc, il y a l'enjeu de la production d'instruments. Là encore, perversion par rapport au bruit entendu comme une réalité presque naturelle, un environnement naturel de la cité moderne, mais ici, environnement qui est analysé et reproduit, pas dans un sens mimétique, mais pour développer les potentialités de cette réalité, au fond, parasite de la musique. Alors, à la conception de nouveaux instruments au service du progrès de l'art musical, les artistes Fluxus, par contre, eux, préfèrent rompre avec ce qui sépare les arts entre eux. Ici, on a une sorte d'analyse avec les futuristes. On a une espèce d'analyse de la nécessité d'un progrès de l'art musical, le passage des sons purs aux sons bruits, etc. Avec Fluxus, on quitte cette logique de progrès, on quitte ce rapport comme ça à des forces endogènes à l'histoire qu'il faudrait savoir capter et traduire dans la pratique artistique, pratique d'avant-garde qui est aussi une pratique qui ouvre aussi ce sens de l'histoire. Chez Fluxus, on quitte ce rapport-là aux frontières artistiques et à cette idée d'un progrès de la pratique artistique. Ce qui intéresse beaucoup plus Fluxus, c'est rompre avec tout ce qui sépare les arts entre eux, de manière à découvrir ici le moyen d'une plus grande perte de frontières aussi entre l'art et ce qui n'en est pas. Donc, toujours dans ce rapport de l'art à la vie. Alors, juste deux mots sur Fluxus, donc c'est un mouvement qui est créé en 1961 par Georges Massounas et que l'on peut définir comme un mouvement d'élargissement de l'art à tous les possibles du comportement artistique, sans exception. Je n'ai pas le graphique ici de Massounas, je pensais l'avoir, et je n'ai pas un graphique de Massounas sur l'Expanded Art Diagram, c'est-à-dire c'est une espèce de vision... Une production graphique de l'histoire de l'art selon Georges Massounas, qui traduit donc graphiquement le développement, dit-il, historique de Fluxus et des autres formes d'art quadridimensionnelles, auditives, optiques, olfactives, épidermiques et tactiles. Dans ce schéma, John Cage est central, et Massounas dit dans une interview de 1978, « Tu pourrais appeler ce graphique le graphique de John Cage, pas celui de Fluxus. » Là, disons que ce qui est intéressant dans ces remarques sur Fluxus, c'est la question du mélange des arts, la question de la polysensorialité, la question des synesthésies possibles, de la rupture des frontières donc entre les disciplines, et puis cette figure de Cage, bien sûr, qui est fondatrice du point de vue du rapport de cette pratique plastique à la musique. Et du rapport à l'indétermination. On va voir qu'avec Fluxus, cette question de l'indétermination, qui est un élément central dans la pratique de John Cage, cette question de l'indétermination va être modifiée chez Fluxus et travaillée d'une manière différente que celle qui prévaut dans le travail de Cage. Alors, Massounas, dans son manifeste Fluxus, donne ses précisions, à la fin du manifeste, l'art Fluxus réprouve la distinction entre l'art et le non-art, donc là je précise les termes que j'ai évoqués à propos de la définition de Fluxus, réprouve la distinction entre l'art et le non-art, il réprouve le critère d'indispensabilité de l'artiste tout comme l'exclusivité, l'individualité, l'ambition, toute prétention au sens, la rareté, l'inspiration, la complexité, la profondeur, la grandeur, les valeurs institutionnelles. Donc il dit séparation des arts ici, dit perte d'une spécificité aussi de l'artiste lui-même, une spécificité de l'artiste, une stature, une posture de l'artiste, au profit, nous le verrons, au profit d'une espèce une certaine forme de délégation de la fonction créatrice au public, à l'auditoire notamment. Et l'enjeu chez Fluxus ici est moins de créer une synthèse. Hein, la synthèse, c'est ce qui va de pair avec ce que j'avais indiqué tout à l'heure, une phase analytique d'approfondissement de la spécificité. Ici, ce n'est pas la synthèse, mais bien sûr la fusion. Hein. Et une fusion moins avec, une fusion entre. Fluxus, c'est un art intermédiaire et fuyant. Mais aussi du point de vue des moyens. Du point de vue des moyens de cette posture intermédiaire, qui est aussi, pour reprendre les termes de Dick Higgins, une situation intermédiaire. Et là, nous retrouvons notre question de l'instrument. Du point de vue des moyens, en effet, car qui dit refus de distinguer ce qui est art et non-art, ce qui est art d'un certain genre, d'un autre, va de pair avec refuser de distinguer ce qui est fonctionnel en art et ce qui ne l'est pas. À cet égard-là, tout est instrument du point de vue de Fluxus. Nam June Paik le disait en 1974 avec Masyounas, tout est fonctionnel. Tout est fonctionnel, premier jour, piano, second jour, corde. Ici, dans cette citation de Paik de 1974, qui décrit donc ce qu'on pourrait appeler un omnifonctionnalisme Fluxus, on mélange un instrument de musique, le piano, avec des éléments d'un instrument, les cordes, avec une mesure, une datation, une mesure temporelle, une mesure d'agenda, premier jour, second jour. Et de ce point de vue, du point de vue, disons, de cette omnifonctionnalité, le premier jour d'une création, c'est un instrument au même titre que le piano, au même titre que les cordes. C'est le modèle musical et symphonique chez Fluxus, mais détourné de sa finalité musicaliste qui sert de cadre. Donc on a toujours cette référence à la musique, et chez Fluxus, c'est central. On le voit dans la manière qu'a Fluxus de présenter les événements Fluxus, en général comme des concerts. On va montrer une affiche d'un concert Fluxus. Voilà, le Fluxus Symphony Orchestra et une Fluxus Concert en juin 1964 au Carnegie Hall de New York. Fluxus Symphonie Orchestra, vous voyez qu'il y a ce graphisme, ce détournement de l'identité visuelle des affiches de concerts du XIXe siècle, avec ce côté, ces musiciens, ou en tout cas ces personnages tout à fait respectables, en livrée de concerts, probablement, en tout cas, dans cette posture affectée et digne des photos du XIXe siècle, probablement photos d'un orchestre, de musiciens d'un orchestre. Donc là, cette référence à la musique, à l'univers de la musique, disons, traditionnelle, classique, mais évidemment détournée. Détournée, pervertie, si l'on veut, du point de vue, disons, de la référence visuelle. Cette référence à la musique, bien sûr, elle a pour but de mieux ouvrir les frontières artistiques, évidemment. Car un concert Fluxus, ce n'est pas un concert de musique comme on peut l'imaginer en se fiant aux affiches des événements Fluxus. C'est par exemple Danger Music de Dick Higgins. Dick Higgins a composé une série de pièces qu'il appelle Danger Music, les musiques dangereuses. Ici, on a une Danger Music numéro 2, qui est interprétée ici en 2002. Hein. C'est une pièce des années 60, mais là, c'est interprété en 2002, où en principe, c'est Alison Knowles, c'est-à-dire c'est la femme de Dick Higgins, qui rasait la tête de Dick Higgins, tandis que celui-ci lisait différents textes, et notamment des textes politiques. Danger Music de Dicking. Donc on voit ici que la musique, la référence à la musique, est problématique. Elle est omniprésente, mais en même temps, elle a quelque chose matériellement, du point de vue du contenu, elle a quelque chose d'absent. Et donc, on va essayer de voir ce que peut signifier cette espèce de référence problématique à la musique. Et en quoi est-ce un concert et en quoi est-ce de la musique, et ce que ça change à la pratique plastique d'être, disons, référencé de cette manière à la musique et à la pratique sonore, et en même temps, ce que ça change à l'art sonore d'être ainsi mis en œuvre. Et pour répondre à cette question, on pourrait visionner un film, un flux film, Chieko Shiomi, Disappearing Music for Face. Alors, que se produit-il en fait dans cette vidéo Fluxus? C'est la disparition très 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 progressive, à une vitesse presque imperceptible, du sourire de Chieko Shiomi. On aboutit donc petit à petit à une disparition totale du sourire. En un peu plus de 10 minutes donc, on passe du sourire à l'absence de sourire. Alors, ce qui est intéressant évidemment, c'est la référence à la musique, la Disappearing Music for Face. On pourrait se demander, cette vidéo est absolument, ce film est sans son, quel est le son de cette musique? Bon, il est silencieux évidemment. Mais qu'est-ce que l'on entend ici? Mais d'ailleurs, on peut se demander, est-ce qu'il faut écouter ou entendre cette musique? Bon, l'enjeu, bien évidemment, dans cette référence à la musique et cette mise en forme, c'est l'élargissement de la musique. On pourrait dire sa spatialisation, mais alors, en tenant compte dans ce mouvement-là de l'enjeu central du rythme, de la vitesse et du mouvement, plus que du son. La musique, ici, la référence à la musique, c'est une manière moins de travailler un son que de travailler plastiquement un rythme et un mouvement. Et puis, que signifie Disappearing Music for Face? For Face, cette musique disparaissante pour visage. Cela reprend la forme syntaxique de des titres de musique classique, hein, où on compose un morceau de musique pour tel instrument. Ça signifie qu'ici, l'instrument de cette disparition musicale, l'instrument de ce mouvement, c'est le visage. L'instrument ici, c'est le visage. On pourrait dire aussi que c'est la musique qui disparaît pour le visage. Et ici, la musique entendue comme art musical, signifiée par la forme syntaxique du titre de l'œuvre, hein, cette musique disparaît. Et on en garde simplement la forme, notamment la forme du titre, au profit du visage, donc au profit d'une certaine réalité physique, psychologique, affective, mais tout de même travailler en utilisant, disons, la référence musicale d'une autre manière que celle d'un certain type de travail harmonique des sons, c'est, disons, la question du rythme et du mouvement qui est en jeu. On pourrait dire musique disparaissante à jouer avec le visage. Cette œuvre de Chieko Shiomi me semble une bonne manière de répondre au problème de cette référence de Fluxus à la musique posée à travers cette photo de ce Danger Music de Dick Higgins. Alors Dick Higgins, précisément, va très loin dans la théorisation de ce rapport aux instruments et aux médias. Dick Higgins, c'est le théoricien Fluxus de l'intermédia. L'intermédia, on le voit comme, de manière assez simple, comme la théorie du mélange des éléments visuels et sonores, notamment, la confusion des éléments visuels et sonores. C'est un terme de 1964, donc qui apparaît chez Dick Higgins, en tout cas, dans son texte sur l'intermédia. Mais cette idée de l'association, la confusion des éléments visuels et sonores, souvent est est confondu, pour le coup, avec le mixed média ou même le multimédia. Mais alors, évidemment, l'intermédia, c'est quelque chose de très différent. La mise en action dans les œuvres Fluxus, dans les œuvres intermédiaires, du son, des éléments visuels, des éléments tactiles, etc., ce n'est pas la même chose, disons, quand on caractérise cette mise en, quand on caractérise ce travail comme intermédia, ce n'est pas la même chose que le caractériser comme mixed media, car le mixed media, c'est un travail dans lequel les éléments textuels, visuels, musicaux, gardent leur identité et ne fusionnent pas. Donc l'intermédia, c'est vraiment le nom de l'enjeu de la fusion de ces moyens-là. Ce qui tombe entre les médias déjà connus, dit Higgins. C'est là où on retrouve, disons, la question du rapport de l'instrument à un certain type de rapport de l'art à la vie, c'est chez Dick Higgins la question du lien entre la conception du médium et la conception de la société. Pour Dick Higgins, une société où les arts sont séparés, une pratique artistique où les arts sont séparés, c'est une pratique qui est liée à une société où les individus sont séparés, si l'on veut, c'est-à-dire une société de classe. Donc qui dit séparation des arts dit société de classe. Et qui dit intermédia dit société sans classe. La question ici de l'usage du son, de la mise en action du son soit dans les concerts Fluxus. Bon, là, effectivement, là, avec Chieko Shiumi, il y avait une référence à la musique, mais sans son, disons, mais les concerts Fluxus qui se déroulent sur scène. Recours à des différents types d'instruments qui produisent des sons, inspirés en partie par les pratiques de collage sonore de John Cage, utilisant des seaux, de l'eau, des marteaux, différents instruments, des sources sonores enregistrées, etc. Donc, ce rapport à la pratique artistique en général et en particulier au rapport à la musique et au son, l'enjeu ici, c'est bien sûr un rapport non seulement à la vie, mais aussi à une certaine conception de la société. À propos de l'intermédia, Dick Higgins écrit également, l'intermédia reçoit son principal impact esthétique de son transfert d'un modèle de l'esprit de l'artiste à celui du spectateur. Donc, autre aspect de cette conception de l'usage, disons, médiatique, en un sens ici propre, transférer l'impact esthétique d'un modèle de l'esprit de l'artiste à celui du spectateur. Donc ici, il y a une espèce d'inversion qui fait que les moyens de l'art sont retournés au profit d'un certain usage par le spectateur. Et ça, on va le développer notamment à travers le travail de Nam June Paik. Et Dick Higgins de développer de manière très conceptuelle cette vision de l'intermédiaire en disant « L'œuvre est essentiellement un exemplum de ce qui est à transférer et le regardeur doit nourrir lui-même les implications. De cette façon, dit-il, l'expérience de recréer le modèle est ce qui lui donne son impact. Une matrice est donnée qui comprend l'œuvre et ce qui la remplit est potentiellement arbitraire ou déterminé par le hasard des objets qu'on a sous la main. » Donc je reprends cette formule de 1976, donc un peu plus tardive par rapport à la théorie de l'intermédia. L'œuvre est essentiellement un exemplum de ce qui est à transférer et le regardeur doit nourrir lui-même les implications. Donc le rôle de l'artiste, on retrouve la théorie de Masuna, cette espèce de dégradation du statut de l'artiste, son retrait de sa posture traditionnelle, au profit d'une certaine délégation vers le spectateur de toute une fonction à la fois de création et d'action du point de vue des implications et du sens, donc d'interprétation du point de vue du sens et du point de vue de la mise en œuvre, car l'artiste, ce que fait l'artiste ici, c'est livrer un exemple, une matrice, un modèle à charge pour le spectateur, à charge pour tout un chacun, en vertu d'une espèce d'abandon de la différence entre l'art et le non-art, mais aussi entre l'artiste et le non-artiste. à charge donc pour le regardeur, le spectateur, de remplir une matrice, de mettre en œuvre un modèle, étant entendu donc que le contenu sera arbitraire et déterminé par le hasard des objets que ce nouvel interactant, ce nouvel acteur, ce nouveau créateur aura sous la main. Donc, il ne s'agit pas d'interpréter, mais de recréer le modèle, de recréer à partir du modèle. La forme de l'œuvre, c'est une matrice. Et on pourrait concevoir cette théorie, disons, cette théorie de l'œuvre également comme une théorie de l'instrument. Hein, théorie de l'instrument, c'est-à-dire que le moyen, au fond, que fait l'artiste ? Au fond, que fait l'artiste ici, en n'étant plus artiste, en abandonnant son privilège ? Il ne livre pas des œuvres, mais il livre des instruments. Il livre des moyens, il livre des matrices, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de principe opérationnel que le spectateur, dont le spectateur peut jouer, disons. Donc si on reste dans notre cadre de la référence musicale, on peut considérer que c'est une sorte d'instrument conceptuel, instrument matriciel, disons. Voilà ce qu'est l'œuvre Fluxus ici. Alors, pour Dick Higgins, l'intermédia pose une question critique, une question historique. Est-ce une innovation historique irréversible ou un mouvement artistique ? C'est-à-dire, il formule les choses de cette façon-là, une innovation historique irréversible plus comparable, par exemple, au développement de la musique instrumentale qu'à celui du romantisme. Donc, est-ce que l'intermédia, c'est un mouvement artistique qui sera dépassé par d'autres mouvements artistiques, comme le romantisme a été dépassé, etc. Donc, est-ce que c'est un mouvement artistique ou une innovation historique irréversible ? C'est-à-dire un mouvement artistique ou un paradigme critique, on peut dire les choses de cette manière-là, un paradigme critique lié à une évolution historique irréversible, comparable au développement de la musique instrumentale. Et à cette question, je répondrai volontiers qu'il s'agit plus ici, si l'on regarde la postérité, disons, de ces théories et un certain nombre de pratiques dans l'art contemporain, moi, je dirais volontiers qu'il s'agit beaucoup plus d'une innovation historique irréversible, équivalente, disons, à l'apparition de la musique instrumentale, le développement de la musique instrumentale. Alors, il faudrait trouver un nom à ce nouveau paradigme, mais en tout cas, on voit que dans cette rupture paradigmatique, c'est bien la question de l'instrument qui sert d'articulation, la question de l'instrument qui est centrale. Dans ce passage de la musique instrumentale, disons-le comme ça, ce passage de la musique instrumentale à l'intermédia. Alors peut-être que ça peut être intéressant tout de même d'écouter Dick Higgins dans deux œuvres de poésie sonore et voir un petit peu la mise en œuvre de cette pratique intermédiatique. Enregistrement de musique de danse du XVIe siècle, un disque destiné à plus par un phonographe, et qui est ici réassemblé, recomposé, mixé, si on veut, en 1961 ici. C'est un mix avant l'étape de mixage, donc c'est un travail de recomposition parce que cette matière de musique instrumentale pour le coup. Du 16e siècle, dans laquelle le principe de création est suivant. La musique est à une vitesse 16 fois plus rapide que la vitesse normale. Et en même temps 16 fois plus lentement que la vitesse de l'éclair normale. Ensuite, le morceau de musique est composé en lisant la pièce musicale en avant et en arrière. Donc une sorte de quadruple recomposition, quadruple traduction de ce morceau de musique instrumentale. À la fois ralentissement et accélération, et en même temps avancée et retour. La poésie sonore, là pour le coup, c'était une composition musicale, mais qui met en œuvre cette rupture paradigmatique par rapport à la musique instrumentale. Et pour ce qui est de la poésie sonore, donc ce serait plutôt cette œuvre, Omnia Gallia, c'est une pièce de 1980, donc beaucoup plus récente.
Yeah. I am up, I down, am young, I am not old, I quick, am slow, I am right, I wrong, am. Gay, I am straight. I am good. Evil. I am not conservative. I am progressive. Poor. I am rich. Not I am English. I American, am active. I am passive. I am ugly. Not handsome. I am late. I am early. I am not brunette. I am male. I am female. I white, am not black. I am up. I down, am young.
I am not old.
I am
quick.
I am right. I am
ici, on comprend que l'artiste est en train de dire ce qu'il est.
C'est
une déclaration en rapport à son identité.
I am
à partir de l'enregistrement de trois voix, donc ces trois voix sont les siennes. Une des voix dit je suis, donc I am. L'autre liste une série de qualités, d'identité. Femme, homme, blond.
I am
vieux, jeune, etc. Et donc la voix qui liste les identités est elle-même est contradictoire, puisque des identités, des qualités contradictoires sont énumérées. Mais en plus, une troisième voix qui ponctue la poésie sonore par un note, qui note donc non, je ne suis pas, donc je suis blond, brun, et je ne suis pas blond, brun. Donc là, on a une espèce de pluralisation de la subjectivité de l'artiste à travers la composition de trois voix de l'artiste qui finissent au fond par peut-être dire que l'artiste est tout. Et en même temps, n'est rien en particulier.
Donc,
il y a aussi une destitution de son statut, de sa définition à partir, pas seulement de son, disons, de sa qualité d'artiste, mais à partir même de ses qualités les plus élémentaires en tant qu'être humain. Donc l'intermédiaire ici, c'est aussi une sorte une forme d'intersubjectivité également. Intersubjectivité parasitée et contradictoire. Bien. Alors, pour terminer sur Fluxus, et avant de passer à Nam June Paik, j'essaie de décourter un petit peu les choses et éviter de prendre trop de temps avant l'intervention de Christophe Kim. Disons que ici, la perversion, la façon qu'a Fluxus de retourner les instruments, de les détourner de leur fonction, c'est avant tout l'omnifonctionnalité. L'omnifonctionnalité de tout. dans une démarche qu'on peut assimiler à une forme de libération de l'instrument. Et il faudrait parler ici du langage de l'instrument plus que du médium, au sens précisément de ce modernisme, de la pureté du médium. Donc un langage de l'instrument plus que du médium. On aurait donc d'un côté l'enjeu de l'autonomisation du médium, du côté du modernisme, et de l'autre, du côté de Fluxus, la question de la libération de l'instrument. D'un côté l'autonomie du médium, de l'autre la libération de l'instrument. Ce sont des problématiques modernes dont... qui partage l'idée d'une une forme d'une démarche d'émancipation dans l'art et par l'art, bien entendu, mais les voies, les méthodes sont différentes, et notamment du point de vue du rapport à l'instrument, et chez Fluxus, la question de l'exécution dans un certain type de référence à la musique, là, est fondamentale. Donc, du point de vue de ces deux voies, si on reprend la problématique du départ, ma problématique du départ, c'est moins, comme on a pu le voir, comme on a pu le définir parfois, un art qui serait dans un certain type de rapport à la vie et un autre qui serait beaucoup plus tourné vers lui-même. On a vu que l'enjeu aussi pour l'abstraction, c'est aussi un art authentiquement vivant. Je ne détaille pas cela, mais on pourrait voir ça aussi chez Mondrian, par exemple. Donc, dans un cas, on accède à cette vie, on accède à cette liberté par une forme de rationalité non instrumentale, la rationalité du médium pour le médium, et dans un autre cas, par une sorte d'instrumentalité déraisonnable, comme chez Fluxus. Et cette dimension de l'instrumentalité déraisonnable, de la perversion instrumentale, qui est aussi une forme artisanale, dans une certaine attention à l'outil, à l'instrument, c'est Nam June Paik qui nous permet de l'approfondir. Alors, Nam June Paik vient de Fluxus, disons c'est une des figures fondatrices de Fluxus, il a un rôle central dans l'importation, l'internationalisation, la globalisation de Fluxus par l'invitation qu'il avait faite à Massunas de venir en Allemagne. Donc c'était une figure de Fluxus importante, même si ensuite il a été, il a pris ses distances par rapport à Massunas, tout en lui vouant toujours une affection et une admiration indéfectibles. Mais disons qu'il est, c'est une figure centrale de Fluxus, et notamment à une époque où il se livrait à ce qu'il appelait les action music, donc il pratiquait la musique action. Et pour voir un peu en quoi consiste cette musique action, il y a deux œuvres incontournables. Étude for pianoforte de 1960, qui est cette célèbre performance au cours de laquelle, Nam June Paik coupe la fameuse cravate de John Cage. Donc vous connaissez sans doute peut-être cet événement. Donc étude pour pianoforte. Là on a trois moments. En fait, le moment de la. Il y a un moment où Nam June Paik, qui se trouve sur scène en train de simplement jouer du piano, soudainement renverse le piano, on voit le piano renversé, et se lève et se dirige vers l'auditoire, et plus précisément vers John Cage, et armé d'un ciseau, lui coupe un morceau de sa chemise. Et puis Nam June Paik remarque cette petite cravate de John Cage, une petite cravate, dit-il, qu'il n'aimait pas du tout. John Cage portait toujours une petite cravate à l'époque, et Nam June Paik n'aimait pas cette petite cravate parce qu'elle lui rappelait trop un certain type de formalisme américain. Et Nam June Paik, irrévérencieux, et en même temps un peu, tuant le père, car il y a quelque chose aussi de castrateur dans ce geste qui consiste à couper la cravate de ce père, cet inspirateur aussi de son évolution créatrice. En tout cas, ce qu'il visait explicitement, c'est un certain formalisme. Et il est clair que Nam June Paik quitte tous les rivages qui pourraient attacher sa pratique à un certain formalisme. Et en partie dans ses actions que l'on disait à l'époque destructrices et violentes. Ketch n'a pas non plus beaucoup apprécié, malgré cela, on voit une sorte de sourire un peu contrit, disons, le fait que Nam June Paik lui ait champouiné la tête. On voit les cheveux un petit peu maculés, comme ça, mouillés de shampoing. Ainsi qu'à David Tudor. David Tudor était dans la salle, et David Tudor, c'est le célèbre interprète, notamment de 4 minutes 33, Silent Peace, donc cette pièce musicale dans laquelle le musicien, assis devant le piano, ne produit aucun son. Donc, œuvre clé dans le rapport de John Cage à l'environnement, au silence, par l'intermédiaire du silence, etc. Bon, je développe pas ça. Mais en tout cas, donc David Tudor et John Cage ont été champouinés. Pas Stockhausen. Stockhausen, au moment où Nam June Paik s'est dirigé vers l'auditoire et a vu Nam June Paik armé de ciseaux, a eu un mouvement de sursaut et de crainte. Et Nam June Paik lui dit « Non, pas pour vous. C'est pas pour vous. » Donc il y a une sorte ici, parmi les disons, dans la filiation, dans les figures clés du parcours de Nam June Paik, ce petit coréen, c'est lui qui raconte un peu son histoire de cette façon, petit coréen désargenté qui vient d'un pays pauvre, qui vient en Allemagne pour Schoenberg. Il est venu pour Schoenberg, pour étudier Schoenberg en Allemagne. Il a rencontré Stockhausen et puis ensuite il est parti aux États-Unis sous l'influence de John Cage. Donc dans cette espèce de parcours, il y a quand même des hommages de nature très diverse. Hein. Les hommages, d'ailleurs Paik a réalisé plusieurs hommages à John Cage, et il y a toujours dans ces hommages quelque chose de relativement irrévérencieux. Stockhausen, non. Bon, okay. Mais il est vrai que Stockhausen, disons, du point de vue de certains principes, certaines conceptions de la composition se rapprochent peut-être plus de Nam June Paik, en tout cas du point de vue notamment de du rôle actif de l'auditoire, hein, et spectateur. Donc voilà les types d'action music réalisés par Nam June Paik. On a la référence ici bien sûr au piano, souvent dans ces concerts d'action music. Les rythmes s'alternent de façon très brutale. Parfois, Nam June Paik est assis, presque effondré, sans geste, sans mouvement, en face du piano. Parfois, c'est sa tête qui repose comme morte sur les touches. Parfois, il joue lentement avec sa tête du piano et brusquement se lève, renverse le piano et puis surgit, bondit sur le spectateur, en l'occurrence John Cage, et le déforme d'une manière assez irrévérencieuse. Alors, là, ici, c'est bon, le rire de Nam June Paik, qu'il a eu toute sa carrière. Et. Bon, voilà, non, ça, c'est exactement la même chose. Alors, autre exemple d'action music, c'est One for Violin Solo. C'est une performance de 1962. Alors c'est Masyounas. C'est Masyounas qui interprète One for Violin Solo de Nam June Paik, qui consiste à se saisir d'un violon et en quatre mesures, disons, il s'agit de le briser sur une table devant laquelle l'artiste se trouve. Et là, il y a une alternance aussi de rythmes très violents et très lents. Il faut d'abord lentement, on le voit dans la photo de gauche, lentement, lever le violon ainsi tenu par l'extrémité, très, très lentement, rester immobile un certain temps en gardant le violon au-dessus de la tête, puis redescendre lentement jusqu'à la table, puis remonter lentement, et à ce moment-là, brutalement, percuter la table pour briser le violon. Et c'est une pièce donc, qui reprend, là encore, comme chez Fluxus, la forme syntaxique du titre de musique classique, One for Violin Solo. Donc là, c'est une sorte une pièce pour un solo de violon, mais alors évidemment qui est interprétée d'une manière qui consiste à se saisir de l'instrument d'une manière tout à fait non conventionnelle, bien entendu, et à jouer de l'instrument jouer de l'instrument de telle sorte que l'instrument soit brisé, détruit. Alors ça, évidemment, ça pose la question de la destruction de l'instrument. Et une destruction de l'instrument, donc il y a une espèce d'acte comme ça négateur vis-à-vis de l'instrument, une espèce d'acte destructeur. C'est ainsi que, dit Nam June Paik, les journaux étaient indignés et parlaient de destruction. Il dit ça dans une lettre de 67. En 51 et 60, j'ai modifié la forme superficielle des pianos et la cravate de John Cage à l'aide de divers outils de menuisier. On retrouve notre question du menuisier, de l'artisan. Les journaux étaient indignés et parlaient de destruction. Or, il le répète dans différents textes. Pour lui, destruction et construction, selon les lois de Newton, dit-il, c'est une seule et même chose. Donc, ce qui nous intéresse n'est pas ce n'est pas tant la portée radicale, violente, du geste de destruction, mais plutôt cette idée d'une conservation des énergies à travers l'instrument, à travers un certain usage de l'instrument. Conservation des énergies, mais dans le même temps, libération des énergies. Peck insiste sur cette dimension cathartique. Hein. Il dit « à l'époque, j'avais besoin d'une catharsis ». Mais ce n'est pas la catharsis, disons, des actionnistes viennois. Ce n'est pas le même type de ritualité subversive. C'est une sorte de catharsis comme libération d'énergie, mais une libération d'énergie dans laquelle quelque chose se conserve. Il s'agit simplement de libérer à travers moins d'ailleurs une violence faite à soi-même, comme dans les gestes les plus radicaux de la performance des années 60-70, une violence faite à un instrument. Il s'agit de détruire, évidemment, il y a quelque chose qui est détruit matériellement, mais en fait, on détruit moins un objet, on détruit moins, même si c'est quand même à l'œuvre, une espèce d'ordre symbolique, qu'une certaine fonction. C'est une fonction qui est détruite ici. On détruit moins des objets qu'une certaine fonction. Et sur ce rapport à la radicalité subversive, à la violence, on peut aussi penser à ce que Nam June Paik, avec humour, disait à propos des musiques injouables, les musiques injouables, comme par exemple une partition qu'il avait écrite dans laquelle, qui consistait la partition se lisait de la manière suivante, prendre un rasoir et se tailler le bras sur 10 cm. Pour lui, c'est une musique injouable. Et il a été très, très, très gêné le jour où un étudiant américain, proche des mouvements radicaux de la fin des années 60, a exécuté cette pièce, à la manière d'un Chris Burden, disons. À la manière d'un Chris Burden qui prendrait, disons, au pied de la lettre, la partition, hein, qui serait dans cette recherche d'une sorte de subversion, d'une transgression à travers une forme d'autodestruction, de violence faite au corps et soi-même. Et Nam June Paik était très gêné par cette exécution, pour le coup. Donc il y a ici un rapport à la musique qui suppose évidemment la mise en... comment dire, l'accent mis sur l'exécution, sur le moment, sur la performance. Mais cette exécution... il ne faut pas la prendre au pied de la lettre et surtout pas la prendre au pied de la lettre de la destruction radicale. Plutôt la considérer comme un processus de libération de certaines fonctions à travers la destruction de certaines fonctions d'un instrument. C'est Alan Kaprow qui éclaire aussi cette logique-là en disant de Paik qu'il était un cultural terrorist, donc un terroriste culturel, certes, mais, précise-t-il, il a détruit le fonctionnement de la télé comme il a détruit les pianos. Et donc, en prenant cette enfin, à l'appui de cette phrase de, d'Alan Kaprow, qui, je crois, a très bien compris la, ici la, la, ce qui est à l'œuvre chez Peck, cette, cette idée d'une destruction fonctionnaliste, disons, des instruments. Ce qui est en jeu ici, donc, ce serait, si on, si on fait donc le rapport entre Newton et Kaprow ici, autour de cette question de l'instrument, ce serait donc la destruction comme libération d'énergie par la critique fonctionnelle de l'instrument. Alors oui, le piano est renversé. Il y a de nombreuses pièces où on voit le piano renversé. C'est un moment célèbre, toujours, dans, dans les travaux de Peck. Le piano est renversé, mais... voilà, je vais vous simplement vous montrer un piano préparé, disons, à la manière de Nam June Peck. C'est une pièce assez relativement récente, puisque ça date de 1993. Donc, il y a des pianos détruits, il y a ces pianos préparés. Bon, ça, c'est l'héritage de John Cage, cette manière de, non pas seulement d'entendre les marteaux jouer, mais d'ouvrir, d'ouvrir le piano et de placer à l'intérieur du piano des objets divers qui permettent à la vibration des cordes de produire des sons inattendus. Il y a aussi cette performance Fluxus, reprise en partie par Nam June Peck, qui consiste à utiliser un marteau, oui, mais un vrai marteau, un marteau de menuisier, pour le coup, et à clouer les touches du piano. Et bien sûr, cette activité manuelle, artisanale, qui consiste à planter un clou dans les touches du piano, forcément produit une musique, produit une composition musicale. Bon, ici, c'est un mode un peu différent, puisque le piano est préparé, mais à partir d'un circuit vidéo en loop, enfin un circuit fermé, où des caméras sont placées devant le clavier et diffusent une image dans un empilement de moniteurs placés à l'endroit, en long ou en large. Et ce qui se produit donc, c'est une sorte de déploiement de l'instrument dans l'image, un déploiement de l'instrument dans un temps et un espace vidéographique, et une espèce de démultiplication des points de vue sur l'instant possible d'une exécution. Puisque là, évidemment, on a l'impression qu'on attend, comme les caméras attendent disons, le début du concert pour filmer, retransmettre éventuellement un concert à la télévision. Mais ici, ce n'est pas le concert qui doit être retransmis, c'est le jeu des mains sur le clavier. Le jeu des mains sur le clavier, c'est ce moment de l'exécution, ce moment de l'usage de l'instrument qui est déployé en une pluralité de significations spatiales et temporelles grâce à la vidéo. Bien. Donc là, ce qui est évidemment le piano, certes, n'est pas détruit, mais ce serait tout à fait réducteur de faire une espèce de différence entre l'instrument détruit des années 60 dans l'action music et puis les pianos préparés dans le rapport notamment à la vidéo des périodes suivantes. On peut tout à fait considérer qu'il y a une même logique ici qui consiste à détruire des fonctionnalités et libérer également des fonctionnalités à partir de l'instrument. Et par le même coup, libérer des énergies. Pour Peck, ce type de travail, ce n'est pas un simple renouvellement. Là encore, on retrouve cette idée du paradigme, disons, qu'il y a dans l'intermédiaire. Et c'est étonnant de voir que ce sont dans ces pratiques qui nous semblent à la fois très ironiques, très comiques, qui nous semblent des gags, bien souvent. Et d'ailleurs, la plaisanterie et le gag, c'est tout à fait revendiqué chez Fluxus et chez Nam June Peck. Les textes de Nam June Peck, bien souvent, sont à la fois sont aussi bien des grosses plaisanteries et en même temps des gros travaux d'érudition. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que ce sont dans ces réflexions à partir d'œuvres qui nous paraissent parfois de grandes plaisanteries, que s'ébauche de véritables bouleversements paradigmatiques du point de vue du rapport à la création. Pour Nam June Paik, il ne s'agit pas de renouveler les formes de la musique, dit-il dans un texte sur la post-music. Il ne s'agit pas de renouveler les formes de la musique, cela ça le fatigue, dit Paik, mais il s'agit de s'attaquer à la forme ontologique de la musique. Forme ontologique de la musique. Et il me semble que c'est le travail de l'instrument qui est l'instrument de cette rénovation, hein, et de cette transformation. Alors, je ne sais pas s'il me reste... 2 minutes. D'accord. Alors, je vais faire un dernier... alors, je dirais juste pour terminer que... bon, là, il faut que je voulais vous montrer aussi d'autres documents. Bon, je vais peut-être le faire rapidement. Bon, une des manières de renouveler la forme, cette forme ontologique de la musique, c'est la question de l'exposition de la musique. Il y a un moment clé dans l'œuvre de Nam June Paik, c'est 1963, un événement qui s'intitule Exposition of Music, Electronic Television, et c'est une exposition collective où on trouve aussi Vostel qui expose les différents artistes Fluxus à la galerie Parnasse à Wuppertal en Allemagne de l'Ouest. Cette exposition de la musique, Electronic Television, c'est le moment de la rencontre entre le travail de Paik sur la télévision et son rapport à la musique. Et c'est intéressant pour comprendre certains rapports à l'instrument à travers l'idée de l'exposition. Donc, c'est cette question de l'exposition de la musique, ce n'est pas simplement une question de spatialisation du son, pas seulement une question de spatialisation de la musique, de même que les arts visuels, de leur côté, rentreraient dans le temps en rompant ces digues différentialistes, disons, de l'esthétique issue de Lessing et renforcée par le modernisme. Non, ce n'est pas seulement cette question de la spatialisation de la musique, cette question de l'exposition, c'est véritablement la définition d'une nouvelle instrumentalité. Il faudrait parler de Symphony for 20 Rooms de 1961, qui est une pièce composée pour 20 pièces. 20 pièces, alors pour le coup, vraiment au sens de lieux séparés. Le but étant que l'auditeur puisse circuler à travers 20 sources sonores différentes qui sont autant d'espaces séparés. Et en fait, il y a 18 salles, mais pas 20. Donc c'est encore un clin d'œil de Paik, une espèce de son jeu sur son refus du formalisme, là encore. Donc là, qui nous ouvre la question de l'espace de la musique vers plutôt un enjeu d'instrumentalité, un enjeu de pratique, un enjeu d'usage, où dit Paik, ce qui importe, c'est maintenant que l'indétermination qui a été... qui était une innovation introduite du côté du créateur, ce soit également maintenant à l'auditeur, au public, de l'expérimenter et d'en bénéficier. Je ne suis plus le cuisinier, c'est-à-dire le compositeur, dit Paik, mais simplement le fine cost handler, c'est-à-dire le tenancier d'une épicerie fine. L'artiste devient le tenancier d'une épicerie fine. Mais, dit-il, cette autodégradation... Donc on retrouve cette revendication du statut d'artisan. Cette autodégradation provoque des joies inattendues, dit-il. Ces instruments me permettent de combiner plusieurs activités sensorielles. Toucher, souffler, caresser, regarder, faire un pas, marcher, courir, entendre, frapper, etc. Donc l'exposition de la musique, c'est un enjeu spatial, mais pas d'un point de vue formaliste, c'est performaliste, il faudrait dire. Performaliste, c'est pervers. Et c'est à ce titre le propre de la performance. Ici, c'est livrer les instruments à l'auditoire. L'instrument, c'est aussi un environnement. L'instrument, c'est aussi un environnement. Ce n'est pas simplement le son qui provoque, qui constitue, qui crée un environnement, qui rend compte d'un environnement, qui transforme un environnement. C'est l'instrument lui-même qui est un environnement chez Nam June Paik. Il le dit à propos de la télévision, mais il l'exprime aussi dans son travail d'exposition de la musique. L'instrument, c'est un environnement. Euh, La nature de notre environnement, dit-il, est bien plus basée sur la télévision que sur le film ou la peinture. En fait, la télévision, son mouvement aléatoire de petits électrons, est l'environnement d'aujourd'hui. Donc je crois que c'est cette question de Chepek du travail de l'instrument. C'est bien sûr toute une théorie d'ici aussi du médium, et là, entendu dans ces deux sens, au sens du milieu, mais alors le milieu à la fois comme moyen, mais en même temps comme milieu au sens où l'entend aussi Guy Debord, c'est-à-dire vraiment l'environnement qui appelle un certain type de comportement. Alors, je crois qu'il faudrait... peut-être que j'arrête là. J'avais envie de vous montrer un travail, peut-être qu'on peut le faire peut-être cet après-midi, c'est en fait un travail que j'ai réalisé avec une artiste, Tania Ruiz, artiste vidéaste et qui travaille beaucoup sur les nouvelles technologies, dans le cadre d'un projet d'édition de DVD, d'un DVD sur l'œuvre de Nam June Paik, et j'avais travaillé sur les performances de Nam June Paik avec cette question qui consistait à savoir comment aborder les performances de Nam June Paik. Et dans cette question de la présentation interactive des performances de Nam June Paik, et bien sûr la question de la présentation de dimensions visuelles, c'est-à-dire bon, les vidéos, les documents photographiques, etc., du travail de Nam June Paik, mais il y a aussi la question du son. Et on avait, dans la réflexion, abouti à une sorte de... disons, une sorte d'interface, voilà, bon, c'était une interface, il s'agissait de concevoir une interface qui permette de donner à l'accès que l'on peut avoir du point de vue de l'archive de ces œuvres, leur donner aussi une dimension pas seulement interactive du point de vue de la technique, mais aussi du point de vue de la production de quelque chose, d'une énergie qui serait... conservé dans ces documents de la performance originale. Et dans cette réflexion-là, la question du son est apparue. Et donc on avait abouti à une... Je ne sais pas si j'ai 5 minutes là pour juste montrer rapidement ça. Ouais. Un des buts, c'était produire une sorte de matière, une espèce de matière historique, une matière artistique dans laquelle circuler, mais en évitant au maximum l'idée d'un classement, d'un stockage, d'une sorte de réification. Il fallait conserver quelque chose de vivant à cet ensemble. Et... c'est l'occasion aussi de voir quelques exemples des mouvements, des usages, des pratiques, des gestes de Paik dans leur rapport à l'instrument. Alors ce qui se produisait, c'était, ce qu'on essayait de faire, c'est de déterminer dans toute cette masse, cette profusion énorme de gestes, d'actions, de performances. Chez Paik, c'est énorme. Profusion assez difficile à classer, essayer de trouver des gestes, voilà, vous voyez là l'usage du clou et du marteau sur le piano, trouver des gestes un peu discriminants qui nous situeraient un petit peu dans, précisément dans permet de trouver, disons, de permettre des situations intermédiaires et actives et opérationnelles dans cette masse de performance. L'utilisateur avait la possibilité de choisir non pas des œuvres, non pas des dates, mais des gestes, par exemple. Des gestes et parfois des instruments. Voilà, il y avait les gestes et les instruments. Là, par exemple, c'était écran, et puis ensuite, on pouvait passer à une autre mise en forme, un autre accès à la performance. Là, c'était les éléments, le feu, l'eau, l'air. Là, on voit Charlotte Moorman, une violoncelliste de musique classique qui a été détournée, pervertie, véritablement pervertie par Nam June Paik, au point de lui faire jouer de la musique topless, ce qui aura valu à Nam June Paik et à Charlotte Mohman d'être arrêtés en 1967. Là, ici, vous voyez le célèbre Antivicello, c'est-à-dire la, le violoncelle télé. Là, c'est la caméra qui sert. Qui sert à jouer du piano. Là, le geste en question, c'était masquer, retrouver, masquer, retrouver. Là, c'est renversé. Là, c'est vraiment le geste qui est renversé. Et alors, dans le cadre de cette conception d'interface, l'idée c'est de rendre compte au maximum de la profusion de cette matière et de cette mémoire, mais de la rendre la plus possible. Et notamment, il y avait le son qui joue un rôle dans ce cadre-là. Bien sûr, on n'a pas composé, une musique, disons une bande son à partir de partitions, notamment de Paik, mais on a simplement laissé le son des différents extraits vidéo se fondre ensemble, ce qui aboutit véritablement à une sorte de composition fluxus qui évoque celle de Masyounas, d'une certaine façon. Et c'est une manière, à mon avis aussi, dans le cadre d'une espèce de rapport à l'archive de la performance, de créer un rapport vivant à cette matière. Finalement, de recomposer, sans prétention du tout artistique, mais prétention critique, de restituer une forme d'énergie vitale dans ce rapport à la musique. Donc ça, en fait, ce qu'on a ici, c'est un peu la bande son de l'histoire des performances de Paik.
He has been hailed by critics as the world's most famous bad pianist.
Avec la voix de Paik, avec la voix des commentateurs, avec la voix de Charlotte Mohman, avec le bruit des instruments. Voilà, ça c'est la bande son de la performance. C'est la bande son de la perversion instrumentale.
Oh, you know something.
Malheureusement, ce travail a été interrompu pour des problèmes de droit.
Oh yeah, this is being shown in New York too, in Boston and Moscow. Say something nice to. Oh yeah, I love Jacqueline Kennedy. Oh no, she's working. Say
so. Thank you, Jacqueline Kennedy. Oh no, she's working.
Oh yeah, and then.
Bien, je vous remercie.